Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 31 janvier 2018. À la une ce soir, au Tchad, la grève des fonctionnaires se poursuit et les travailleurs n'entendent pas lâcher prise.
Aujourd'hui, en Guyane, la grève a été respectée par tout le monde, totalement par les services publics. Dans tous les cas, nous n'accepterons jamais qu'on nous ampute un seul copec de nos salaires.
Younous Mahadir, président de l'Union des syndicats du Tchad. Au Togo, des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition. Environ 80 gendarmes camerounais ont mené une incursion militaire lundi à Danaré au Nigeria. Le Hamas poursuivra sa lutte de résistance malgré la décision des États-Unis de placer son chef sur leur liste des terroristes. Et bien sûr, dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Des forces de sécurité camerounaises ont passé la frontière vers le Nigeria fin janvier, où des milliers d'anglophones camerounais se sont réfugiés. Nathalie Barge.
La presse nigériane et camerounaise rapporte que 80 gendarmes camerounais ont mené une opération militaire lundi à Danaré, où sont réfugiés des milliers de Camerounais anglophones. Selon des réfugiés dans l'état de Cross River, une soixantaine de soldats camerounais sont venus la semaine dernière à Danaré pour dire que leur village d'origine était sécurisé et qu'ils pouvaient revenir chez eux. Des habitants de Danaré ont souligné que les soldats n'avaient pas effectué d'opération armée. Des forces de sécurité du Cameroun sont venues dans le district de Boki, ont indiqué les autorités de l'état de Cross River, affirmant qu'elles sont déjà venues dans le district d'Ekang en décembre. Le président du mouvement séparatiste anglophone, Sisiku Ayuktabe, interpellé au Nigeria, a été extradé lundi au Cameroun avec 46 de ses partisans.
Au Tchad, la grève générale et illimitée des fonctionnaires entre dans son deuxième jour. Selon les organisateurs, le mouvement est largement suivi et c'est un succès total. Jusque-là, il n'y a pas de discussion avec les autorités. Idriss Fall a joint Djamena Younous Mahadir, président de l'Union des syndicats du Tchad.
Aujourd'hui, en Guyane, la grève a été respectée par tout le monde, totalement par les services publics, sauf un service minimum qu'on a installé dans les centres de santé. Et avec notre participation, nous avons installé des services minimums. Ailleurs, dans les provinces, jusque dans le désert, nous avons les informations de nos cellules qui disent qu'ils ont observé totalement la grève.
Est-ce qu'il y a des discussions avec le gouvernement?
Jusqu'à maintenant, non. On n'a pas eu de discussions. Ils disent qu'ils sont ouverts. Nous aussi, on est ouverts. Mais il n'y a pas eu de discussions. Le gouvernement ne nous a pas appelé. Il dit tout simplement qu'il est ouvert. Mais nous aussi, on est ouverts. Mais je pense bien que c'est au gouvernement de dire, bon, venez, on va discuter. Ce n'est pas à nous de dire au gouvernement de venir, vous discutez. Mais nous sommes prêts à toute discussion. Dans tous les cas, nous n'accepterons jamais qu'on nous ampute un seul copec de nos salaires. Parce que déjà, nous avons des difficultés avec ce que nous avons comme salaire.
Younous Mahadir, président de l'Union des syndicats du Tchad. Au Burkina Faso aussi, une grève de 24 heures du syndicat de la santé. La plupart des centres de santé ont été désertés par les agents qui ont décidé de soutenir un médecin poursuivi pour la mort d'une patiente. Les précisions de Bagassi Koura.
Les centres de santé et la plupart des hôpitaux publics ont tourné au ralenti. Pour parer au blocage total des services dans certains endroits, le gouvernement a mis en place un plan B pour assurer la continuité des soins. Des médecins militaires ont été réquisitionnés. Le syndicat des agents de la santé entendait protester contre le procès ce matin de Nongezanga Kabore, un médecin poursuivi pour la mort d'une patiente en 2012. Inculpé pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Ce matin, à Waiguia, dans le nord du pays, à l'issue d'une audience de 3 heures, le parquet a laissé tomber la première charge et n'a retenu finalement que la non-assistance à personne en danger. 6 mois d'emprisonnement avec sursis ont été requis par le procureur et le verdict est attendu à la mi-février.
Au Togo, c'est aussi la colère des travailleurs avec une nouvelle journée de grève et des milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition. Ils protestent contre le régime de Faure Gnassingbé. Claire Morin-Gibourg.
Après les enseignants des écoles primaires et secondaires du secteur public, Le personnel de plusieurs centres de santé s'est mis en grève aujourd'hui pour 2 jours à l'appel du syndicat national des praticiens des hôpitaux du Togo. Au CHU Sylvanus Olympio, les bureaux de certains services sont restés fermés. Un service minimum a cependant été assuré au bloc opératoire et à la réception. Le syndicat exige notamment un meilleur équipement des hôpitaux publics et le recrutement du personnel soignant. Les enseignants en grève réclament, eux, une augmentation de leur prime salariale. Les discussions entamées mardi avec le gouvernement n'ont encore rien donné. La tension reste vive sur le campus de Lomé où les étudiants protestent contre les mauvaises conditions d'enseignement et la hausse brutale des frais de scolarité.
Au Niger, le procès en cassation de l'opposant Amadou s'est tenu aujourd'hui à Niamey et le délibéré sera connu le 28 février prochain. Ancien Premier ministre arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, l'ancien Premier ministre arrivé deuxième à la présidentielle de 2016 a été condamné par contumace à 1 an de prison en mars 2017 par la Cour d'appel pour trafic de bébés. En RDC, l'armée congolaise vient de défaire la rébellion de Mai Mai Yaku Tumba en territoire de Fizi. La nuit du mardi à ce mercredi 31 janvier, le dernier assaut des forces loyalistes vient de libérer la presqu'île Doubouari, dernier retranchement des Mai Mai Yaku Tumba, un groupement de Matumbala. Le point avec Ernest Mouero, notre correspondant à Bukavu.
Selon le capitaine Diedoné Kasereka, porte-parole adjoint de FRDC au Sud-Kivu, après plusieurs attaques offensives de la 2212e flotte navale de l'armée congolaise contre l'opposition des Mai Mai Yaku Tumba du 28 au 29 janvier dans la presqu'île d'Oubouari, celle-ci est enfin sous le contrôle des FRDC. Le capitaine Kasereka ajoute que les rebelles et leurs leaders sont en fuite vers des pays étrangers. Une autorité coutumière de la place qui a requis l'anonymat confirme la prise d'Oubouari, mais selon lui, il n'y a pas eu des affrontements à proprement parler la nuit du mardi, car le Mai Mai, profitant du répit observé après les pilonnages de l'armée le dimanche passé, se sont retranchés discrètement de la presqu'île. Selon l'organisation non gouvernementale Sireski, centre indépendant des recherches et d'études stratégiques au Kivu, depuis le début des opérations des FARDC pour déloger les Mai Mai Yaku Tumba en territoire de Fizi, voilà 10 jours, il y a plusieurs déplacés internes et externes dans la population civile. Sireski avance un chiffre de plus de 8000 habitants qui ont fui vers le Burundi et environ 10 000 déplacés internes arrivés principalement dans la cité de Baraka, à Mboko et même à Uvira via les beaches de Maendeleo. L'opinion locale à Uvira salue la prouesse de l'armée régulière qui vient de démanteler les Mai Mai en 10 jours, libérant ainsi une vingtaine d'agglomérations du secteur d'Enganja et Mutambala en territoire de Fizi. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Hamas a déclaré aujourd'hui que la décision des États-Unis de placer le chef du mouvement islamiste palestinien Ismaël Haniyeh sur leur liste noire des terroristes n'affaiblirait pas la lutte contre Israël. Cette décision visant à faire pression sur la résistance est vouée à l'échec. Elle ne nous découragera pas dans la mesure de la résistance, dans la mesure où la résistance, jusqu'à ce que nous ayons chassé l'occupant, a dit le Hamas dans un communiqué. Le ministère américain de la Justice a demandé aujourd'hui à un juge d'abandonner les charges pour corruption visant un sénateur démocrate, Robert Menendez, qui avait déjà bénéficié en novembre de l'annulation d'un premier procès. Robert Menendez était accusé d'avoir utilisé sa fonction pour défendre les intérêts d'un riche ami ophtalmologue et homme d'affaires de Floride, en échange de cadeaux et de financements de campagne. Toujours aux États-Unis, le séminaire annuel des républicains du Congrès américain a été endeuillé mercredi par la mort d'une personne qui se trouvait à bord d'un camion poubelle heurté par le train transportant les élus depuis Washington. L'accident s'est produit en Virginie entre un train Amtrak et le camion qui, selon les témoignages de nombreux parlementaires à bord du train, se trouvait sur les rails à un passage à niveau. Une partie du camion a été détruite, selon des images de l'accident. En Ukraine, les vacances luxueuses du président Petro Porochenko et du procureur général, un proche du chef de l'État, ont suscité l'indignation parmi les Ukrainiens. Le pays est confronté à une forte corruption des élites. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place Salamine Seko qui vous est présentée par Eric Manerakiza.
Le taux de couverture du franc CFA zone CEMAC a bondi à 63% à la fin 2017. Les gouvernements ont réduit une partie des dépenses en devise, ce qui a stabilisé les réserves de change. Les décaissements du FMI ont aussi renforcé ces résultats. Néanmoins, les États de la zone CEMAC refusent systématiquement de fournir à l'institution d'émission monétaire BEAC les données sur les contrats d'exploitation des ressources. Les ministres des Finances de la CEMAC se réuniront vendredi 2 février à Douala. La Côte d'Ivoire injecte près de 3 milliards de dollars dans les infrastructures routières en 2018. C'est pour renforcer la voirie urbaine de la ville d'Abidjan, réhabiliter 3916 km de routes bitumées interurbaines et construire de grands ouvrages d'art. Les villes de l'intérieur du pays connaîtront une extension du revêtement des routes des chefs-lieux de district, de région et de département. L'Égypte va créer de villages touristiques sur une superficie de plus de 2 millions de mètres carrés dans la ville d'El Daba, sur la côte nord du pays. Ce projet coûtera environ 565 millions de dollars. Le nouveau code d'investissement accorde une réduction de 50% d'impôt sur les investissements réalisés dans les zones sous-développées, permet l'acquisition des terrains pour des projets industriels et favorise la création de zones franches pour inciter l'investissement privé.
Et nous accueillons Yacouba Ouédraogo dans ce studio et c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Très bonne nouvelle pour le Maroc qualifié pour la finale du CHAN 2018.
Et oui John, jusqu'au bout des prolongations, les Lionceaux de l'Atlas ont ouvert le score à la 75e minute par Ayoub El Kabi. Les chevaliers libyens de la Méditerranée ont rétabli la parité à la 86e grâce à un but signé Abdulrahman Khalifa. El Kabi est revenu à la charge à la 92e 17e et compte désormais 9 buts dans cette compétition. Il en est d'ailleurs le meilleur buteur. Walid El Khatri enfonce le coup à la 118e sur pénalty. 3-1 pour le Maroc qui reste le grandissime favori de cette compétition. Le Maroc connaîtra son adversaire de la finale à l'issue de la deuxième demi-finale entre le Nigeria et le Soudan. Ce match est en cours et toujours 0-0 après un peu moins d'un quart d'heure de jeu.
Et on parle de transfert en football.
Tout à fait. Arsenal et Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert immédiat de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 141 buts au sein du club de la Roure, selon Dortmund. Les Londoniens ont déboursé 63,75 millions d'euros. Conséquence, l'attaquant français Olivier Giroud, barré par l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal, a rejoint Chelsea, qui prête le Belge Michy Batshuayi à Dortmund. L'annonce a été faite aujourd'hui par les deux clubs.
Et le Camerounais Samuel Eto'o, lui, reste en Turquie.
Votre compatriote John, l'ex-international camerounais, s'est engagé avec le club turc de Konyaspor au lendemain de la résiliation de son contrat avec une autre équipe turque, Antalyaspor. Samuel Eto'o, 36 ans, a signé un contrat pour 2 saisons et demie avec son nouveau club, dont une en option. L'attaquant camerounais avait rejoint la Turquie et Antalyaspor en juin 2015 après avoir évolué notamment au FC Barcelone, à l'Inter Milan, à Chelsea ou encore à Anzhi Makhachkala, c'est en Russie.
Bonne chance au 9 donc, et puis le PSG accède à sa première finale de la saison, Yacouba.
Oui, le Paris Saint-Germain, quadruple tenant du titre, s'est qualifié pour sa 5e finale de la Coupe de la Ligue consécutive en allant battre Rennes 3-2 hier. Les buts parisiens ont été inscrits par Menu à la 24e, Marquinhos à la 53e et Lo Celso à la 58e. Autre fait, dans ce match, Kylian Mbappé a reçu le premier carton rouge de sa carrière pour une faute par derrière sur Sarr à la 63e. Rennes est revenu en toute fin de match sur 2 buts signés, Sako à la 85e et Persich à la 92e. La seconde demi-finale oppose Monaco à Montpellier et c'est ce soir.
C'était le sport, c'était Yacouba Ouédraogo. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VO Afrique et vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, présenté par John Lyndon, production Georges Léonard Sagnot. Place à présent au dossier du jour. Et on commence par le Cameroun. Des forces camerounaises ont mené une opération au sein des anglophones réfugiés au Nigeria voisin. Cela fait suite à l'extradition du Nigeria vers le Cameroun des leaders séparatistes anglophones. Que pense la population? Raïssa Girondin a posé la question à Joseph Essama, journaliste camerounais.
Ce sont les Camerounais lambda qui en pâtissent parce qu'il y a beaucoup de résidents du côté, les civils du moins, les civils du côté du nord-ouest et du sud-est qui se réfugient au Nigeria, d'autres qui viennent dans les régions francophones. Et vraiment, la situation est lamentable pour toute la communauté nationale. Et vraiment, qu'une solution soit trouvée.
Mais comment comprendre la décision du gouvernement nigérian de livrer Ayouk Tabe à Yaoundé?
Que le gouvernement nigérian ne peut pas encourager que le sionisme est lié au Cameroun, étant donné que le même fait pourra se répéter chez eux. Et avec surtout ses conséquences, parce que le ACR a communiqué qu'il y a plus de 10 000 Camerounais qui se sont réfugiés déjà vers le Nigeria.
Une des solutions pour enrayer cette crise peut-elle être militaire?
La solution pour résoudre ce problème ne saurait être militaire. La solution, c'est le dialogue. Au contraire, la solution militaire aggrave la situation, parce que depuis que les sécessionnistes et ambassadeurs se sont radicalisés, on a vu des actes inacceptables. Ils ont égorgé certains militaires à la machette. Et puis, on se dit qu'avec ces arrestations encore, ils ont déjà formé deux forces militaires d'un côté, la force militaire ambassadeur qui est du côté du sud-ouest et une autre force militaire qui est du côté du nord-ouest. Et cette force militaire, c'est elle qui agit actuellement sur le terrain. Donc, avec la solution militaire, comme on dit, le sang appelle le sang, et puis eux-mêmes se sont lancés dans le bain de violence. Et si on continue à vouloir régler le point par la violence, je crois qu'on risquera d'aboutir à peut-être un guerre civile généralisé.
Alors, est-ce que vous pensez qu'un dialogue peut être possible, un dialogue pacifique entre le Cameroun et puis ses leaders séparatistes?
On a déjà lancé à plusieurs reprises cet appel envers le gouvernement de trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse aboutir à un dialogue inclusif. La seule chose que le gouvernement a brandi est dernièrement encore avec la communication du ministre de la communication porte-parole du gouvernement. Il était clair et radical que l'État du Cameroun ne fichera pas devant ces sionistes.
Joseph Essama, journaliste camerounais, joint à Yaoundé.
Bonjour à tous, c'est Kiabadou avec vous et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel dans votre émission hebdomadaire Washington Forum. Le rideau est tombé lundi sur le 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président rwandais Paul Kagame succède au Guinéen Alpha Condé à la présidence tournante de l'organisation panafricaine. Parmi ses objectifs, taxer certains produits et créer une zone de libre circulation. Quel avenir pour le projet de réforme porté par le dirigeant rwandais? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Ekiabadou et ses invités.
En République centrafricaine, des groupes armés qui prétendent assurer la sécurité des populations et leurs biens dans le quartier kilomètre 5 de Bangui perturbent la tranquillité des habitants. Les commerçants du PK5 avaient financé ces groupes d'autodéfense pour protéger le quartier, mais ces derniers ont laissé place à d'autres bandes désorganisées. Yacouba Ouedraogo a joint Youssouf Djibril, président de l'association des commerçants du quartier kilomètre 5.
Il y en a qui ont laissé leurs armes et puis ils ont rentré dans le visage. Il y en a qui ont parti à la DDCVR. Mais le reste là, moi je crois qu'ils ne sont pas des groupes.
Oui, vous dites que ce ne sont pas des groupes d'autodéfense. Qui sont-ils?
L'autodéfense va défendre la population. Mais quelqu'un qui détient les armes, ils sont brûlés même tout le marché. Si tu même parles, même c'est des problèmes. Si tu interviens, c'est des problèmes. On te mélange un système. Voilà, comment pays dans lequel ça? Sans autodéfense à défendre la population, nous n'avons pas de secours, ni côté de l'intervention, ni côté du gouvernement. Depuis des années qu'on vivait comme ça.
Est-ce que vous connaissez leur identité? majorité, qui sont-ils?
La majorité, c'est des centrafricains. Il y en a qui sont nés en province, il y en a qui sont nés ici.
Qu'est-ce qu'ils font exactement dans les quartiers? Comment ils persécutent la population?
Ils ont leur groupe, c'est-à-dire ils ont leur fonction, chacun ils ont leur base. C'est pour ça que l'enfant, parce qu'on a demandé le démantèlement, ils font démonter toutes les bases. Quelqu'un qui est désespéré, qui n'a pas de travail, c'est un bandit, il va commettre ses actes, après il va regagner aux bases, et puis le base va les défendre. Par exemple, le groupe, ils ont venu brûler les marchés, ils ont regagné les bases, et voilà les bases, ça les défendre toujours. La population était prise en otage, la population n'a pas la force, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous, maintenant, on s'intervenir dans les hommes, on s'intervient, vous, notre vie maintenant, c'est en danger. Ils nous menacent, on va vous enlever, on va vous tuer, même nous, on peut pas baisser les bras, nous sommes les fils de ce pays, on peut s'amuser à tout, on peut pas s'amuser à notre pays.
Qu'est-ce que ces groupes armés-là font dans les quartiers exactement? Est-ce qu'ils prélèvent des impôts? Est-ce qu'ils prélèvent des soi-disant taxes? Qu'est-ce qu'ils font aux populations?
Non, l'histoire de l'impôt, l'histoire des taxes, non, ils ne faisant pas ça. Là, il faut que les gens n'amènent pas d'amalgame. C'est-à-dire, parmi les auteurs du contrat, il y en a, c'est des fanciniers. Il y en a qui gardaient les marchés, le fin du mois, ils venaient, ils prenaient cet argent. Parce qu'ils vivent que de ça. Ça, c'était un. De deux, à un moment donné, on a interdit, on dit que non, on ne voit rien de nous. Ils commencent à casser des magasins. La nuit, on casse des 2-3 magasins. La nuit, on casse 2-3 magasins. C'est un des pressions. Donc, nous sommes obligés. Donc, on donne. Parce que quand ils donnent pas, on va casser ta magasin la nuit.
Combien vous donnez?
Il y en a qui prennent 5 000, il y en a qui prennent 2 000, il y en a qui prennent 3 000, ça dépend.
À quelle périodicité? C'est par mois, c'est par semaine ou quoi?
Non, chaque mois.
Il y a la MINUSCA, il y a les forces de sécurité centrafricaines. Ces forces-là ne patrouillent pas dans le quartier kilomètre 5?
Non. Les forces de défense et de la sécurité, ils ne travaillent plus. Mais si le ministère de la Défense, ils n'ont pas donné de l'autorisation, ils ne vont pas intervenir. Maintenant, là, c'est la MINUSCA qui est en train de garantir la sécurité. Ils sont en train de faire des patrouilles. Donc, nous voulons aussi restaurer ça de l'autorité de l'État. Nous, on va pas de la police, ni de la gendarmerie. Mais pourquoi on ouvre la conférence de couleur à la police, la gendarmerie et la MINUSCA et les FATA, comme ça, pour que vraiment ils sécurisent cette population là.
Youssouf Djibril, président de l'Association des commerçants du quartier kilomètre 5. L'Union africaine a créé un marché unique du transport aérien. Il vise à améliorer la compétition entre compagnies aériennes et le transport entre pays africains. Jusque-là, 23 pays ont adhéré à cette réforme. Eric Manerakis a joint à Genève Yann Hoffman, chef de service de la logistique à la CNUSET, l'Agence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
L'expérience qu'il y en a dans d'autres régions et d'autres modes de transport maritime, terrestre, ce type de marché commun, c'est positif pour les utilisateurs de toute façon, c'est positif pour les coûts de transport, la connectivité en fait, c'est même positif pour les entreprises de transport aérien au long terme parce qu'ils gagnent un marché régional où il peut se développer mieux et après il peut même être plus compétitif dans le monde. Et je félicite la Union africaine pour avoir commencé cette initiative.
Est-ce que vous pensez que l'Africain va désormais voyager à moins cher?
Je crois que ça va être un des résultats, oui. Je suis confident que ça va arriver. Bien sûr, c'est le futur, on ne sait pas. Il faut maintenant la mise en œuvre. Hein. Une fois, c'est l'accord, la mise en œuvre de cet accord. Donc, les régulations nationales, l'ouverture, les accords avec les lignes aériennes. Donc, il faut attendre si ça va vraiment arriver. Mais en principe, les Africains devraient voyager moins cher entre eux, entre les pays africains.
Est-ce que les pays, au niveau des taxes, y a-t-il un avantage particulier?
Bon, en principe, s'il y a plus de choix, normalement, la concurrence va faire que les prix doivent être moins élevés. Bien sûr, il faut toujours observer, il faut prêter attention qu'il n'y a pas des abus, et maintenant, il faut regarder les alliances entre les lignes aériennes. On va avoir la concurrence. Mais vous savez, ici en Europe, on dit généralement, si on doit aller d'un pays africain à un autre pays africain, très souvent, il faut aller vers Paris, vers Bruxelles, vers Londres. Et normalement, si on commence à avoir plus d'options dans la région, plus d'alternatives d'aller directement entre les pays africains.
Il y a des pays comme l'Éthiopie, le Maroc, qui n'ont pas adhéré à ce marché. Vous pensez que ce n'est pas dans leur intérêt?
J'ai pas vraiment une opinion sur les cas spécifiques, un pays et l'autre, mais justement, les deux pays, ils ont déjà des expériences positives dans leur marché aérien. Je crois, je pense, mais je n'ai pas étudié le cas spécifique, hein, mais je crois au long terme, ça devrait probablement aussi être dans leur intérêt de faire partir de ce marché commun.
Yann Hoffman, joint à Genève. C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise à nom de par Georges Léonard Sagnot. Rob McLean était à la console. Présentation John Linden. Merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VOAfrique. L'actualité en continu, c'est sur notre page Facebook et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo a exercé les deux mandats permis par la Constitution. C'est maintenant au tour de quelqu'un d'autre de briguer la présidence. Une crise a éclaté quand Kabila n'a pas organisé les élections à temps et n'a pas démissionné. À la suite des négociations, le parti au pouvoir et la coalition de l'opposition ont signé l'accord de la Saint-Sylvestre. Le président s'est engagé à ne pas briguer un troisième mandat ou modifier la Constitution. Il devait demeurer à son poste jusqu'à l'investiture de son successeur après les élections qui devaient se tenir à la fin de décembre 2017. Mais il n'y a pas eu d'élection l'année dernière en RDC et il n'y en aura pas avant décembre 2018. Et maintenant, le parti du président Kabila parle de modifier la Constitution afin qu'il puisse briguer un autre mandat. Le refus du président de démissionner, les machinations politiques ayant retardé les élections à diverses reprises, ont causé une crise politique, accentué l'insécurité et provoqué une série de manifestations de rue au cours desquelles de nombreuses personnes ont été tuées. Le 31 décembre, le comité laïque de coordination a organisé des manifestations pacifiques contre lesquelles les forces de sécurité ont fait usage d'une force excessive contre des manifestants sans armes. Une autre a été programmée pour le 21 janvier. Les autorités s'y sont préparées en coupant l'Internet et le service SMS, de même qu'ils ont interdit des rassemblements de plus de 5 personnes. Lorsque les manifestations pacifiques ont tout de même eu lieu, les policiers ont fait usage des gaz lacrymogènes et tiré à balles réelles dans la foule, tuant au moins 7 personnes, blessant et arrêtant des centaines d'autres. Nous condamnons dans les termes les plus fermes la violence perpétrée par les forces de sécurité de la RDC le 21 janvier contre les manifestations pacifiques menées par l'Église, a fait savoir le porte-parole du département d'État, Heather Nauert, dans une déclaration écrite. Nous sommes consternés que le gouvernement de la RDC, y compris le président Kabila, ait employé des tactiques répressives et usé de manière disproportionnée de la force létale contre les civils, y compris des leaders religieux et des enfants qui exerçaient leurs droits démocratiques pour demander des élections crédibles et inclusives, a-t-elle ajouté. Le recours à la force létale contre des citoyens congolais et le blocage de l'Internet tweets et des SMS, sape le processus démocratique, entrave la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et contrevienne aux normes internationales en matière des droits humains. Nous appelons au président Kabila de tenir responsable les membres des forces de sécurité ayant tiré sur les civils ou ordonné l'usage de la force létale, et nous l'exhortons ainsi que son gouvernement d'assurer qu'un processus électoral paisible et ouvert soit mis en œuvre afin que les élections crédibles se tiennent comme prévu en décembre 2018.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.